grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'éducation, et plus précisément celle de la petite fille au Mali, c'est le sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce jeudi. Le sujet fait l'objet d'échanges à plusieurs niveaux depuis le début des années 2000, quand la communauté internationale s'était engagée à garantir une éducation primaire gratuite pour tous les enfants. Donc, c'était pour 2015. Quand on parle donc de la scolarisation des enfants dans un pays comme le Mali, on est obligé de mettre l'accent sur le cas donc de la petite fille, l'éducation de la petite fille, comment a-t-elle évolué, les progrès réalisés, ça et là sont-ils à hauteur des souhaits, à quel niveau se situent les obstacles s'il y en a, c'est à ces questions et évidemment à bien d'autres qui vont répondre nos invités qui sont Madame Diallo Fanta Camara, elle est ancienne ministre de l'éducation, elle est également présidente d'honneur de l'ONG FAWE, elle sera en ligne à partir de 18h30. Nous avons ici dans ce studio Amadou Samake, qui est le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Madame Maïga Kadiatou Babi de l'ONG Agir est également ici dans ce studio. Nous avons enfin Charlotte Sedel, qui est consultante internationale spécialisée en éducation. À la présentation, Seydou Fomba, auditrice, auditeur, bienvenue.
Studio Tamani.
L'éducation pour tous, le sujet préoccupe depuis bien longtemps et cela à juste titre. Cela est valable pour aussi bien le Mali et l'Afrique d'une manière générale que pour d'autres parties du monde. Depuis donc longtemps, l'UNESCO soutient l'accès à l'éducation pour tous les enfants en prenant le soin de mettre l'accent sur l'égalité entre sexe masculin et féminin face à ce qu'on appelle les opportunités éducatives. Éducation pour tous d'ici 2015, égalité filles-garçons. On est en fin 2015, que peut-on faire comme constat à présent? Je pose la question à M. Amadou Samake, qui est directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Merci M. l'animateur. Bonsoir aux invités. Et avant de répondre à la question, je tiens à remercier une fois de plus le studio Tamani pour avoir organisé cette émission sur la scolarisation des filles. Aujourd'hui, la scolarisation des filles est une question encore préoccupante malgré tout ce qui a été mené comme activité en amont par le gouvernement en collaboration avec tous les partenaires ONG, agences internationales et acteurs communautaires, collectivités. Donc, à présent, beaucoup de progrès ont été réalisés. Courant le débat, nous allons peut-être rentrer dans de petits détails. Mm-hmm. Et malgré tout, les moyens cachent beaucoup de disparités à l'intérieur entre villes et campagnes, entre campagnes, zones rurales et zones urbaines.
Entre pays également.
Entre pays, ça c'est une comparaison sous-régionale. Nous souhaiterons centrer le débat sur le cas spécifique du Mali. La scolarisation des filles n'a pas pu atteindre aujourd'hui les objectifs escomptés pour plusieurs raisons que nous allons évoquer courant le débat. Mm-hmm. Et là, grâce à certains facteurs qui seront évoqués. Mm-hmm. Merci, monsieur l'animateur.
Alors, votre constat, madame Charlotte Sedel, vous qui êtes consultante internationale spécialisée en éducation.
Mon constat est le même que M. Samake. Je pense qu'il faut quand même souligner que des progrès ont été faits depuis 15-20 ans. Maintenant, moi, j'aimerais différencier peut-être trois choses. Les efforts qui ont été faits en termes d'accès. Donc, beaucoup plus d'enfants maliens vont à l'école et beaucoup plus de filles aussi vont à l'école. Les problèmes en termes de rétention, c'est-à-dire que c'est pas parce que, en l'occurrence, une fille va être inscrite en première année du primaire qu'elle va terminer le primaire. Il y a quand même beaucoup d'abandon en cours de cycle. Et je pense qu'il faut aussi, quand on parle de scolarisation, vraiment regarder ce qui se passe au niveau de l'accès, ce qui se passe au niveau de l'achèvement du primaire et ce qui se passe au niveau de l'acquisition des apprentissages. Est-ce qu'au bout de 6 ans, les garçons et les filles réussissent à acquérir le minimum en lecture et en mathématiques? Et je pense qu'il faut bien faire attention à ces trois dimensions. ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits en termes d'accès, en termes d'achèvement, mais le Mali est encore un peu en retard. C'est pas le pays le plus en retard par rapport au pays, à la région de l'Afrique de l'Ouest, mais il est en retard. Après, c'est difficile de comparer les pays parce que les pays ne partent pas tous du même niveau. Alors, voilà. Mais ce qui est effectivement important, c'est ce qui se passe là aujourd'hui au Mali.
Alors, nous allons à présent nous tourner du côté de Madame Maïga Kadiatou Babi de l'ONG Agir. Alors, Madame, des progrès ont été donc réalisés en matière d'éducation des filles, mais on semble quand même loin des attentes, non?
Oui. Merci beaucoup. Je voudrais joindre ma voix à celle de Samake pour vous remercier de nous avoir conviés à cet espace. Je suis Kadi Babi, je suis spécialiste de développement du réseau FAWE et personne ressource pour l'ONG Agir. Je voulais préciser cela. Voilà, donc je pense que mes collègues ont effectivement un peu le décor. Aujourd'hui, il faut se dire que... ce qui est intéressant, c'est que après entre 2000 et 2015, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que nul ne met en doute la pertinence de l'éducation des filles. Ça, c'est un acquis. Je pense que c'est un débat qui n'a plus lieu d'être. Tout le monde sait que l'éducation des filles est importante et tout le monde accepte cela. Je pense que c'est un grand pas qu'il faut vraiment saluer et vraiment célébrer même. Maintenant, comme ils l'ont dit, effectivement, il y a l'accès, mais il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, au Mali, sur 10 filles, il n'y en a que 6 qui ont accès, effectivement, à l'école. Et sur ces 6, 4 seulement arrivent au niveau de la 6e année. Donc, il y a énormément de problèmes. Et à cela, il faut ajouter le fait que si au premier cycle, par exemple, de l'enseignement fondamental, nous avons des taux qui ne sont pas satisfaisants pour nous, par exemple... un TBS, un taux brut de scolarisation, je veux dire, de 63,8% pour les filles, pour 75% pour les garçons, et avec un taux d'achèvement de 43% seulement pour les filles, au niveau du second cycle, la situation s'aggrave. Au niveau du second cycle, il y a des garçons qui seront, par exemple, à 56%, pendant que les filles seront à 44%, avec un taux d'achèvement de 24% pour les filles. Est-ce que vous voyez? Donc, plus c'est une pyramide, plus ça monte, plus les filles ont des difficultés à aller de l'avant. Et comme Samake l'a dit au début de la discussion, il y a eu d'énormes... efforts, c'est vrai que des efforts ont été fournis, mais la réalité est qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous imaginions des alternatives, vraiment que nous soyons beaucoup plus créatifs pour le maintien des filles à l'école, parce que là est la vraie question.
Alors, la communauté internationale, quand même, semblait assez enthousiaste en 2000 à Dakar. A-t-elle à présent un peu perdu de son enthousiasme, monsieur le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental? En se référant à ce qui se passe quand même chez nous au Mali, non?
Je ne peux pas dire oui, parce que la communauté internationale, ou d'abord le Mali s'est engagé a pris beaucoup d'engagement au niveau international et s'est donné les moyens de les atteindre. À travers la préparation et la mise en œuvre d'un programme décennal de développement de l'éducation, qui a fait beaucoup de bons résultats. Si je dois rappeler encore seulement un de résultats, j'allais dire que si le taux brut de scolarisation au fondamental en 2003, par exemple, était, disons, l'indice de parité de scolarisation des filles était de 0,72%, et aujourd'hui, il est de 0,85. L'indice de parité est le rapport taux brut de scolarisation filles-garçons. Donc, le niveau cherché est 1. 1 égale à la parité. Donc, nous sommes à 0,89 aujourd'hui. Donc, pour vous dire que des progrès ont été faits. Certes, la communauté internationale n'est pas déçue, mais Il s'agit de regarder, de faire une regard prospective sur le chemin parcouru, d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs escomptés. C'est pourquoi beaucoup d'activités ont été programmées, d'où les études qui ont été menées en amont. Je parle précisément d'une étude menée par la complicité de FAE, par Madame Diallo Fatoumata Camara et par Madame Sedel, qui est une étude récente vraiment pour nourrir une fois de plus les réflexions autour du projet de comment s'y prendre avec la scolarisation des filles.
Alors, nous allons maintenant donner la parole à Madame Charlotte Sedel, qui est consultante internationale spécialisée en éducation. Dites-nous, Madame, les efforts déployés par le Mali sont-ils de nature à encourager la communauté internationale à continuer de l'appuyer?
Oui, bien sûr. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est que le Mali a mis en place des structures importantes pour promouvoir la scolarisation des filles. Ça fait partie des rares pays de la région où ces structures sont en place. Donc au niveau central, il y a une structure chargée de la promotion de la scolarisation des filles.
Une division.
Au niveau des académies d'éducation, il y a des points focaux chargés de la scolarisation des filles. Au niveau des CAP, les centres d'animation pédagogique, il y a aussi des points focaux. Et au niveau des écoles, il y a aussi des points focaux pour la scolarisation des filles. C'est assez exceptionnel d'avoir à tous ces niveaux-là des points focaux chargés de la scolarisation des filles. Après, bien entendu, il y a les structures, mais il faut voir qu'est-ce qu'on met dans ces structures. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles ont les moyens de fonctionner? Est-ce qu'elles ont les moyens de mettre en place la coordination de tous les acteurs qui interviennent en faveur de la scolarisation des filles? Et là, peut-être qu'effectivement, il y a certaines faiblesses qu'il est important que le Mali adresse. Mais les structures sont là. Et ça, c'est quand même important. Et je parle sous la gouverne du ministère de l'Éducation nationale. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des financements qui ont été accordés au niveau régional pour la scolarisation des filles. C'est un point qui n'est pas négligeable. Mais encore une fois, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière et comment ces financements vont être utilisés et comment ces structures fonctionnent sur le terrain. Mais il y a une base.
Et Madame Momaiga Kadiatou Babi, qui est donc spécialiste au développement du réseau FAWE et en même temps consultante au niveau de l'ONG Agir, dites-nous, Madame, est-ce que vous partagez cette opinion de Charlotte Sedel?
Oui, je pense que, pour revenir à votre question, je pense que la communauté internationale a bien fait de fixer des objectifs en 2000 parce que cela a amené les gens à se focaliser sur les questions. Il y avait un objectif spécifique, l'objectif spécifique numéro 5, qui était l'élimination des disparités entre filles et garçons, et qui devait être atteint déjà, je pense, en 2005. C'était le premier objectif de l'EPT qui devait être atteint. Ça n'a pas été atteint, mais cela a permis aux différents acteurs d'être beaucoup plus attentif, je dirais, par rapport à la question de la scolarisation des filles. Nope. Nous avons eu la politique nationale de scolarisation des filles en 2007. Je pense que cela y était pour quelque chose. Vous voyez, et toute cette structuration dont Charlotte vient de parler maintenant, quelque part, c'est aussi dans la mise en œuvre de cette politique-là. Et je pense que nous avons... C'est à partir de cela que nous avons même pensé à avoir un budget sensible genre, c'est-à-dire avoir d'abord une composante spécifiquement genre dans le PRODEC, avoir un budget sur cette composante, même si ce budget n'était pas énorme. Mais bon, c'était un bon début quand même. Donc, je pense que cela a permis quand même d'avoir des avancées. Je pense qu'il faut voir ça, comme on le dit. On peut voir son verre selon qu'il soit plein ou à moitié plein ou vide, comme on veut. Mais je suis du genre à toujours valoriser ce qu'on a comme acquis et évidemment chercher toujours plus. Je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut aller. Et si la communauté internationale ne s'était pas fixée comme objectif d'atteindre certaines choses en 2015, je suis sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc cela a été utile qui a eu vraiment les objectifs de l'EPT 2015.
Mm-hmm. Studio Tamani 17h30, la suite de ces débats dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
L'éducation de la petite fille, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Pour en parler, nous avons donc quatre invités. Et Madame Modialo Fatoumata Camara, ancienne ministre de l'Éducation, présidente d'honneur de l'ONG FAWE, qui est donc à partir de cet instant en ligne. Elle pourra donc participer au débat. Amadou Samaki, le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Madame Maïga Kadiatou Babi, spécialiste développement du réseau FAWE et elle est consultante à l'ONG Agir. Nous avons enfin Charlotte Sedel, qui est donc consultante internationale spécialisée en éducation. À présent, nous allons parler d'un document. Et dans un rapport publié par le Forum économique mondial en France, il est dit que dans le domaine de l'éducation, l'écart entre hommes et femmes, garçons et filles, donc s'est resserré à l'échelle du globe sur 10 ans et que les deux genres se rapprochent en parité. Mais souligne le rapport, ce progrès masque plutôt des disparités dans près d'un quart des pays étudiés. Le fossé, dit-on, s'est creusé. Quel commentaire faites-vous de ces constats? Je crois que nous allons poser la question à Madame Diallo Fatoumata Camara, qui est donc ancienne ministre de l'Éducation, présidente d'honneur de l'ONG FAWE.
Oui, j'ai bien compris la question. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les questions sur le plateau.
Voilà, bienvenue donc, madame. Je vais reprendre la question. Je parlais d'un document, d'un rapport, un rapport publié aujourd'hui même par le Forum économique mondial, c'est en France. Il dit que dans le domaine de l'éducation, l'écart entre hommes et femmes, donc garçons et filles, s'est resserré à l'échelle du globe sur 10 ans et que les deux genres se rapprochent en parité. Mais le rapport souligne en même temps que ces progrès masquent les disparités dans près d'un quart des pays étudiés. Il dit même que le fossé s'est creusé. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat, madame?
Ce constat est réel et maligne. C'est vrai que même l'écart entre garçons et filles se réduit effectivement, mais il reste encore important. Il y a deux chiffres jusqu'à présent au Mali. C'est-à-dire que les garçons sont plus scolarisés que les filles. Et ça, quel que soit le niveau d'enseignement, quel que soit l'offre d'enseignement. Donc, il reste réel, même si l'écart se réduit, il n'en demeure pas moins qu'il est important, il reste très important encore. Et que nous n'avons pas atteint encore nos objectifs par rapport à cette équité et égalité. Voilà.
Alors, nous allons.
Il y a eu beaucoup d'efforts, c'est vrai que les efforts ont donné des résultats considérables. Mais il reste encore du chemin à parcourir.
Alors, nous allons vous retrouver dans un instant, madame, le temps de retourner dans ce studio pour demander à monsieur Samaki, Amadou Samaki, le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, alors, s'il est d'accord avec les conclusions du Forum économique mondial.
Je suis parfaitement d'accord avec les conclusions de ce forum. Et en ce qui concerne le cas spécifique du Mali, il faut comprendre et rappeler à chaque fois l'occasion se présente que le Mali a fait beaucoup d'efforts en termes de scolarisation des filles, mais les objectifs escomptés ne sont pas atteints. Si le Mali s'était fixé comme objectif dans sa loi d'orientation sur l'éducation d'atteindre 70% des filles scolarisés en 2008, nous sommes à combien d'années aujourd'hui de 60, du moins de 2008. À présent, nous n'avons pas atteint ce chiffre. Les progrès sont là, les objectifs ne sont pas atteints. Tout le monde est d'accord là-dessus. Aussi, les moyennes qui sont là représentent un niveau, la situation à un niveau. Mais dans cette moyenne, si on essaye de creuser un peu, on verra qu'il y a beaucoup de disparités à l'intérieur. Comme je l'ai si bien dit en début de débat, permettez-moi de vous donner quelques exemples.
Allez-y.
Si le taux brut de scolarisation est à 86,1% à Bamako, il est de 46,7% à Tombouctou, 53,2% à Ségou et 63,2% à Kayes. Et ça, c'est les disparités au niveau régional. Et les mêmes disparités existent à l'intérieur des régions. Voilà, pour dire que l'écart s'est réduit, mais il y a encore des problèmes, des difficultés pour atteindre les objectifs escomptés.
Madame Charlotte Sedel.
Moi, je suis totalement d'accord avec M. Samaké. Il faut faire très attention aux moyennes mondiales, régionales, même nationales. Et on le voit sur les chiffres. Ce qui se passe à Bamako, ce n'est pas ce qui se passe à Koulikoro, ce n'est pas ce qui se passe à Tombouctou. Et je pense qu'il faut faire très attention. Sur le Mali, quand on prend les données région par région, il y a eu un progrès de manière générale sur toutes les régions. Mais le progrès n'est pas le même pour toutes les régions et le point de départ n'est pas le même non plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, les freins socio-économiques, culturels, les freins qui peuvent être liés à l'offre éducative aussi, ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux moyennes nationales. Ce qui se passe, encore une fois, dans une région A en termes d'infrastructure, ne va pas être la même chose dans une autre région. Et donc, il faut toujours avoir un regard vraiment spécifique par région, voire même, comme l'a dit M. Samaké, à l'intérieur d'une région, et analyser beaucoup plus en détail pourquoi il y a ces disparités plus ou moins fortes dans telle ou telle région. Ça veut dire que, quand on analyse les raisons, ça permet aussi aux États et aux gouvernements maliens d'avoir des interventions beaucoup plus ciblées sur certaines zones. Et c'est ça l'intérêt. Il faut peut-être arrêter de parler de moyenne nationale, vraiment, et de parler vraiment de plus de moyenne régionale pour inciter, et je parle les gouvernements de manière générale, à avoir des actions beaucoup plus ciblées sur les régions qui sont en retard.
Alors, Madame Maïga Kadiatou Babi, que vous inspire les conclusions du Forum économique mondial?
Ces conclusions font un état de lieu véridique, en fait. Comme les autres ont eu à le dire, les disparités, elles sont régionales, elles sont zonales. C'est vrai que c'est entre les sexes, mais même dans les régions, c'est-à-dire même à Koulikoro, dans les différentes académies, vous allez trouver des disparités. Et ces disparités, il faut comprendre aussi que il y a certainement des problèmes d'offre éducative, mais il y a également les stratégies éducatives des différentes communautés. Par exemple, à Kai, par exemple, nous savons très bien que c'est une zone d'immigration. Donc, c'est des gens qui sont tout le temps partis. Donc, ne soyez pas étonnés de voir que le taux de scolarisation, peut-être, en tout cas le taux d'achèvement, soit peut-être à un certain niveau. Peut-être contrairement à Mopti, où vous trouverez que effectivement les disparités sont là, mais peut-être que c'est les filles, évidemment, qui, pour des raisons culturelles, ne restent pas à l'école à partir d'un certain âge. C'est-à-dire, il y a plusieurs raisons qui expliquent ces disparités-là. Et ces disparités, les raisons des disparités peuvent, c'est même pas qu'elles peuvent, elles sont différentes selon une région, vraiment d'une région à une autre. Et vraiment, pour appréhender le problème, je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, d'essayer de comprendre, n'est-ce pas, tous ces aspects et pour pouvoir faire face au problème. Et comme Charlotte l'a dit, je pense qu'il faut essayer aussi de prendre le problème région par région parce que les réalités ne sont pas les mêmes.
Voilà. Alors, je pense que nous allons maintenant joindre Madame Diallo Fatoumata Camara, qui est donc ancienne ministre de l'Éducation et présidente d'honneur de l'ONG FAOE. Alors, dites-nous, Madame, il y a quand même quelques années, les taux d'analphabétisme étaient, si je ne me trompe, de 52%. Les femmes concernées constituaient 59% et les hommes 45%. Au niveau de l'éducation primaire, les taux d'assistance pour les filles étaient de 43% contre 50% pour les hommes. Comment se présente, selon vous, la situation aujourd'hui?
Bon, j'avoue que moi, en termes de statistiques, c'est vrai que c'est les statistiques qu'il faut interroger. Et ça, franchement, je n'ai pas les statistiques récentes en ce moment. Parce que c'est la direction de l'enseignement fondamental qui peut mieux vivre. De parler de ces statistiques-là.
Allez-y.
Moi, je pense encore... Oui.
Allez-y.
Oui. Et je dis encore, je crois qu'on a fait déjà le tour, le diagnostic est fait, il est établi, même si il y a quelques éléments nouveaux, quelques obstacles nouveaux qui surgissent maintenant par rapport à l'éducation des filles et des femmes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de l'interroger des stratégies. Les stratégies qui ont été développées, est-ce qu'elles nous ont permis d'atteindre nos objectifs? Est-ce que ces stratégies aujourd'hui ont... celles qui ont donné des résultats positifs, est-ce qu'on a cherché à les pérenniser? Moi, je pense que ma préoccupation aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les stratégies qui ont été positives, qui ont donné des résultats considérables, probants, que nous puissions les pérenniser. On n'a pas, je n'ai pas l'impression qu'on va dans ce sens-là. C'est surtout ça ma préoccupation. Parce qu'on commence par développer une stratégie, on se limite à des régions, je ne dirais même pas des régions, des zones très limitées. On ne fait pas, on ne va pas la mise à l'échelle. Cette stratégie n'est pas pérennisée, on passe à une autre stratégie. Évidemment, c'est de la responsabilité des autorités de mettre un frein à ça. À cette, je dirais qu'il y a une certaine... instabilité, diversité, diversion même, je dirais même diversion dans la mise en œuvre des stratégies. Et ça, je pense que c'est un gros problème auquel il faut s'attaquer aujourd'hui. Et c'est bien les autorités que les partenaires qui nous ont toujours soutenus, qui continuent à nous soutenir. Si on se rend compte qu'on a développé une stratégie, que ces stratégies ont donné des résultats, il faut qu'on essaye de la mettre à l'échelle. Et c'est ce qu'on n'est pas arrivé, ce qu'on n'arrive pas à faire.
Alors, Amadou Samake, je rappelle, vous êtes le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Madame le ministre vient de le dire, des stratégies, il faut les revoir. Il y en a à revoir. C'est votre avis?
En partie, oui, mais avec une précision. Mm-hmm. Comme elle l'a si bien dit, les stratégies ont été développées et elles ne sont pas capitalisées et mises à l'échelle. Et cependant, il faut revenir à ce qui a été dit en amont. Une seule stratégie n'est pas valable pour toutes les régions du Mali. Pour vaincre aujourd'hui les disparités, il faut obligatoirement identifier les vrais problèmes au niveau local. Chaque contexte a sa réalité. Quand on développe une stratégie pour une localité, une région, un cercle dans une commune, cette stratégie ne peut ne pas être valable pour une autre commune. À Kidal, le problème de scolarisation ne se pose pas sous le même angle que le problème de scolarisation des filles, par exemple, à Bougouni. Vous comprenez un peu la situation? Bon, c'est comme ça, moi, je vois la situation. Alors, il s'agit aujourd'hui d'analyser chaque problème lié à la scolarisation des filles dans sa spécificité et adresser des réponses appropriées en fonction des contextes locaux. Des contextes locaux, s'il vous plaît. Voilà.
Madame Charlotte Sedel, pensez-vous qu'il y a des stratégies qui ne sont pas adaptées à certains milieux en matière d'éducation des filles?
C'est une question difficile. Je pense que j'espère et j'ose croire que quand on met en place une stratégie, elle est adaptée au milieu. Maintenant, est-ce que cette stratégie est efficace? C'est un autre problème. Elle peut ne pas être efficace parce que elle peut représenter un coût beaucoup trop élevé. Et souvent, on n'a pas cette information-là sur la notion de coût-efficacité. Mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière sur le problème de stratégie. C'est vrai qu'il y a des contextes locaux qu'il faut adresser. En même temps, on voit aussi naître des problèmes généraux. Et j'aimerais parler du problème de l'environnement sécurisé pour les filles. Le problème de violence qu'il y a pour aller à l'école, le problème de violence qu'il y a dans les écoles. Ce problème d'environnement sécurisé, il est partout, dans toutes les écoles, et il n'est pas du tout spécifique au Mali. Il n'est pas du tout spécifique à l'Afrique non plus. Mais c'est un problème qu'il faut adresser. Le problème, des problèmes un peu plus concrets aussi, hein, et il y a plusieurs études qui ont été menées. Et par rapport à l'environnement, je parlerai du problème des latrines séparées entre les filles et les garçons. C'est un problème qui existe et qui n'est pas propre au Mali. Ça, ce sont des stratégies nationales à mettre en place. Donc il y a des stratégies nationales, mais il y a aussi des stratégies spécifiques. Et encore une fois, j'aimerais qu'on sépare un peu les problèmes d'accès et les problèmes de maintien à l'école. Quand il y a des régions où on voit que les filles abandonnent beaucoup plus, on peut se poser la question. Bien sûr, il y a un problème de demande et du regard des communautés, mais on peut aussi se poser le problème de l'offre. Est-ce que l'école qu'on propose est celle que les parents veulent pour leurs enfants et pour leurs filles? Parce que, juste un dernier point, je pense que quand l'école n'est pas de bonne qualité, les freins socio-économiques et culturels qu'il peut y avoir vont revenir de façon beaucoup plus forte, et ça va être encore une fois les filles en premier qui vont subir plus que les garçons les conséquences de ces freins.
Les stratégies en matière d'éducation des filles, on va donc en reparler dans un instant, le temps d'observer une courte pause.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, l'éducation des filles, c'est le sujet du jour. Nous étions en train d'évoquer les stratégies, leur élaboration et leur mise en œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Maïga Kadiatou-Babi?
Bon, je pense que je reviens un peu à ce que mes collègues viennent de dire. Les stratégies, elles sont diverses. Elles sont souvent spécifiques aux groupes cibles, les filles, mais même les filles, par exemple les stratégies pour les filles démunies ou les stratégies pour les filles dans les zones rurales, c'est pas forcément les stratégies peut-être qu'il faut développer pour les filles peut-être dans certaines zones urbaines. Mais le problème des violences, c'est vrai que est uniforme, c'est partout. Et le problème, c'est que comme Charlotte le dit, l'environnement scolaire, il peut être favorable ou non à la fille. Et c'est pour ça qu'il est important, en termes de stratégie, par exemple, après l'accès, évidemment, après avoir développé des stratégies pour vraiment faire de sorte que les parents acceptent même d'envoyer les filles à l'école, il faut maintenant, à travers la sensibilisation en premier lieu, et puis peut-être l'appui souvent aux parents, pour qu'ils puissent faire face à certains frais, parce que tout le monde sait que les coûts d'éducation de la fille coûtent beaucoup plus cher de toutes les façons pour les garçons que pour les garçons. Donc souvent, certains parents ont besoin d'appui. Mais une fois la fille à l'école, effectivement, il faut lui assurer un environnement sécurisé. Un environnement sécurisé à travers l'environnement physique de l'école, mais également à travers l'aspect pédagogique, c'est-à-dire des enseignants sensibles au genre. Et quand je parle d'enseignants sensibles au genre, je parle pas des enseignants seulement masculins, je parle des enseignantes aussi. Parce qu'on peut être enseignante sans être sensible au genre. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important que, par exemple, l'intégration du genre dans la formation initiale des enseignants soit une réalité. Cela permettrait d'éviter, en tout cas d'amoindrir le coût de formation continue, n'est-ce pas, qui est très énorme et qui ne touche pas tous les enseignants forcément. Par contre, si c'est au niveau des instituts de formation des maîtres, tous ceux qui en tout cas passeraient par ces instituts auraient cette formation et pourraient peut-être avoir les attitudes qu'il faut envers les filles. Et au-delà de cela, FAWE a développé beaucoup, beaucoup de stratégies. Nous avons des modules vraiment qui ont été prouvés comme de très bonnes pratiques, qui ont vraiment prouvé, donné leurs preuves sous plusieurs cieux. Nous avons par exemple le module Tousséme, qui est un mot swahili qui veut dire exprimez-vous, qui développe vraiment l'estime de soi, vraiment qui habilite les filles vraiment pour que elles se sentent bien en milieu scolaire. Nous avons la pédagogie qui intègre le genre, qui s'adresse et aux enseignants et aux élèves. Nous avons également toutes ces stratégies, par exemple, comme Charlotte l'a dit, par exemple, il faut les mettre à l'échelle, où c'est Madame Diallo qui l'a dit. Il faut, à un certain moment, quand une pratique s'avère vraiment utile, et vraiment, je pense qu'il faut passer à la mise à l'échelle. C'est ce qui n'arrive pratiquement jamais. Donc, les gens laissent tomber. Par rapport au mariage précoce, nous, au niveau de FAWE, dans la région de Kai, on était parvenus à avoir un contrat avec la communauté où nous intervenions pour qu'ils acceptent de ne pas marier leurs filles au moins jusqu'au DEF.
Et ça marchait.
Et ça marche. C'était un travail vraiment de proximité. C'était un travail pratiquement de tous les jours. Ils m'entendent certainement. Mais ça marchait. C'était dans la région de Kai. Fawe a eu à faire ça. Nous avons créé des AME, des associations de mères d'élèves, dans plus de 100 écoles. Et ces AME ont empêché des mariages précoces. Nous avons fait de la documentation sur ça. Il faut capitaliser. Je pense qu'il faut faire vraiment la documentation des bonnes pratiques. Et il faut surtout qu'il y ait le courage politique de mettre à l'échelle. C'est vrai que ça a un coût, mais je pense que la déperdition scolaire coûte beaucoup plus cher que tout ça. Parce que c'est quand même un investissement qui revient à zéro. Voilà.
Et quand on évoque de façon générale la problématique de la scolarisation de la petite fille au Mali, on évoque certaines contraintes socio-culturelles et religieuses. Et ces contraintes gardent-elles toujours tout leur poids? Je pose la question à Amadou Samaké, le directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Merci bien. En fait, avant de répondre à la question, permettez-moi juste de rappeler ces trois passages.
Allez-y.
Et si je m'en tiens à ce que vient d'évoquer Madame Charlotte et la grande sœur Madame Maïga, par rapport aux stratégies développées, moi je dirais que le ministère de l'Éducation nationale n'a laissé aucune des trois stratégies citées pour compte. Je m'en vais pour preuve pour dire aujourd'hui que dans les plans de construction de l'école, exiger les latrines séparées, géographiquement séparées. Ça, c'est une réalité aujourd'hui et une mesure qui est mise à l'échelle. En tout cas, si c'est l'État qui construit ou c'est la construction passe par l'autorisation de l'État, il faut obligatoirement des latrines géographiquement séparées, filles, garçons. Par rapport à l'offre éducative, l'offre n'est le plus souvent pas adaptée à la demande. Il y a eu beaucoup d'adaptation de l'offre à travers la création des écoles, aujourd'hui des écoles mobiles, à travers la prise en charge des médersas, à travers aujourd'hui et la prise en compte aujourd'hui des écoles coraniques pour des populations qui ne souhaiteraient pas aller à l'école française, par exemple, disons ça comme ça. Et les mesures incitatives, aujourd'hui, sur 5 académies d'enseignement, l'État est en train, avec l'appui des partenaires, par des mesures incitatives, rémunérer les filles qui ont 80% de fréquentation, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour dire que pour aborder dans le même sens que leur souci est pris en compte quelque part.
Puisqu'il nous reste très peu de temps, on va quand même vous demander de répondre à notre dernière question. Les contraintes socio-culturelles et religieuses gardent-elles tout leur poids à ce jour?
Bon, dire que ces contraintes gardent tout leur poids à ce jour serait trop dire. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur la question. Si avant on pouvait même pas on n'avait pas le courage de venir tenir un débat sur la scolarisation des filles, aujourd'hui ça c'est une réalité. Tout le monde est unanime aujourd'hui là-dessus. Tout le monde est au même niveau d'information que la scolarisation des filles est une réalité aujourd'hui, que c'est une base du développement. Et si cela y est et partagé avec toutes les entités, je crois que ça c'est déjà une grande avancée en la matière.
Voilà. Alors, Madame Diallo Fatoumata Camara, vous êtes toujours en ligne. Nous parlons des contraintes socio-culturelles et religieuses. Qu'est-ce que vous pensez de ces contraintes lorsqu'on parle quand même de la scolarisation de la petite fille au Mali?
Par rapport aux contraintes culturelles, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées là aussi. Les réticences ont été plus ou moins élevées grâce aux plaidoyers qui ont été faits sur la scolarisation des filles, grâce aux activités de sensibilisation qui ont été menées. Donc les réticences ont été plus ou moins élevées. Bon, par rapport à la religion, je dirais plutôt, parce que l'autre jour, quand on était au panel, il y avait le représentant des confessions religieuses qui a mis un accent sur le fait que ce n'est pas la religion en tant que telle qui est en cause. Et c'est vrai, nous avons été d'accord avec lui que ce n'est pas la religion en fait qui est en cause. Disons que ce sont plutôt les préjugés. Socio-culturel, plutôt que la religion en tant que telle, parce que c'est vrai que la religion n'a jamais interdit à tout ce que ce soit d'aller à l'école. Ou alors, c'est une mauvaise compréhension de la religion, particulièrement la religion musulmane. Parce que quand on parle de religion comme ça, on globalise, alors qu'en fait, les autres, en dehors de la religion musulmane, qui peut-être paraît, parce que certaines n'ont pas bien compris, trouvent que l'école n'est pas la structure adaptée pour véhiculer la culture religieuse. Les autres religions, je pense, n'ont pas de problème par rapport à l'éducation des filles. Donc, même par rapport à l'islam, je pense que ce sont des populations qui n'ont pas bien compris la religion musulmane, qui pensent que l'école est incompatible avec la religion. Mais quelque part, ils n'ont pas tout à fait tort, hein, parce qu'il y a des messages clés qui sont auxquels la religion musulmane tient et qui ne sont pas tout à fait véhiculés par l'école. Ça, c'est sûr. Et que l'école, il y a un certain temps, l'école véhiculait des messages qui n'étaient pas ceux de la religion musulmane. Ça, je pense que tout le monde est unanime sur ça aussi. Donc, ce n'est pas la religion musulmane en tant que telle. C'est une compréhension. Ce sont les préjugés socioculturels plutôt que la religion.
Madame,
et même par rapport aux préjugés socioculturels, il y a beaucoup qui ont été levés en ce moment. Comme le directeur Samaki vient de le dire. Mais si le temps le fait ça, parce que monsieur Samaki, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se mette d'accord. Par rapport à la mise à l'échelle des stratégies, parce que c'est eux qui ont la responsabilité aujourd'hui d'initier les programmes et de les mettre en œuvre avec évidemment les autres partenaires. Donc, il est important qu'on se mette d'accord sur la notion de mise à l'échelle. Parce que tout ce qu'il a dit, je ne le vois pas en ça, la mise à l'échelle. Les latrines séparées dans des écoles, ainsi tout. C'est vrai qu'il y a des programmes qui ont inclus ça. Mais on ne peut pas parler de mise à l'échelle dans la mesure où il y a beaucoup d'écoles qui, encore aujourd'hui, ne bénéficient pas de ces latrines séparées. Donc, on n'est pas encore au niveau de la mise à l'échelle.
Merci
et
beaucoup.
Et quand il a parlé de Kidal, peut-être que c'est que quand on prend une stratégie, c'est quelques écoles qui sont intéressées, impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. C'est quand toute la région de Kidal, par exemple. Donc, on ne peut pas parler de mise à l'échelle.
Alors, on vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, pour votre disponibilité. Nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat. Alors, nous retournons dans ce studio et Madame Charlotte Ossédel, les contraintes socioculturelles, qu'est-ce que vous en dites?
C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Les personnes qui sont autour de cette table connaissent beaucoup mieux que moi les contraintes socioculturelles qui existent au Mali. Je pense que les parents mesurent, je vais revenir à ma casquette un peu d'économiste, je pense qu'il y a un coût-bénéfice pour la scolarisation des filles, finalement, et que les parents, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont analphabètes, ont cette notion-là de qu'est-ce que ça leur coûte de scolariser une fille. Et je ne parle pas en termes de coûts, je ne parle pas uniquement en termes de coûts monétaires, hein. Qu'est-ce que ça leur coûte de scolariser leur fille par rapport à ce que ça peut leur rapporter. Et je ne parle pas en termes monétaires. Et donc là, si les coûts sont plus forts que ce que ça peut leur rapporter, eh ben, peut-être qu'ils ne vont pas la mettre. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir au problème de la qualité de l'école. Tout ça, et je dépasse les freins socioculturels en disant ça. C'est une réalité aussi socioculturelle.
Merci bien, Charlotte Cedello. Juste une trentaine de secondes, Madame Maïga Kadiatou-Babi.
Oui, bon, le problème, ce que je voudrais juste ajouter à ce qu'ils ont dit, effectivement, il y a le coût d'éducation des filles, mais il y a également certaines politiques aussi qui ne favorisent pas. Par exemple, le fait de ne pas orienter les filles qui ont le DEF. Et généralement, c'est les filles des zones rurales qui subissent ça. Vous partez, vous imaginez, vous partez convaincre les parents d'éduquer les enfants, ils les éduquent jusqu'au DEF et après vous leur dites on ne peut plus les orienter. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Entre autres, le mariage précoce. Voilà, il y a beaucoup de choses, vraiment. C'est vrai que ça avance, mais il y a des politiques aussi qui ne facilitent pas.
Voilà, Madame Maïga, nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat. C'est donc fini. Et nous rappelons que nous avions quatre invités. Madame Diallo Fatoumata Camara, ancienne ministre de l'Éducation, président d'honneur de l'ONG Faouei. Amadou Samake, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Madame Maïga Kadiatou-Babi, spécialiste développement du réseau Faouei et consultante à l'ONG Agir. Et Charlotte Cedel, consultante internationale spécialisé en éducation. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet combien important les semaines à venir. Au revoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Moundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le grand dialogue.